chargerai de faire une traduction s'il y a besoin, mais Martin parle très bien français, donc ça sera certainement superflu. Voilà, peut-être j'engage une première question, ça me paraît peut-être être une bonne idée. Alors j'avais envie de vous poser cette question-là, qui est de savoir comment, comment toi, Martin, tu imagines ton univers sorti. Tu imagines l'univers de Luc Bondy à partir de ta propre création, c'est-à-dire c'est assez extraordinaire de faire découvrir Martin Krupp en France, en allemand, ici pendant quelques jours. Donc, c'est cette première question que j'ai envie de te poser.
Ok. I better speak in English. In my last couple of plays, I wanted to write very open texts.
Dans mes deux ou trois dernières pièces, j'ai souhaité écrire un texte extrêmement ouvert.
Because I've got very fed up with looking at plays of Samuel Beckett and knowing that they insist on every single stage direction being before.
Parce que j'en avais assez de regarder, par exemple, les pièces de Samuel Beckett et de me dire qu'il fallait absolument que toutes les indications scéniques qui étaient données devaient être jouées. Donc, j'avais envie de garder une ouverture.
So what for me is a great pleasure in working with Luke is that he knows how to fill the spaces that I've left open.
Donc, c'est un extrêmement grand plaisir pour moi dans le fait de travailler avec Luke, c'est qu'il sait remplir les espaces que moi j'ai laissés en blanc.
Because I like a director to have his or her own vision of the world.
Parce que j'aime qu'un metteur en scène ait sa propre vision d'un monde, de mon monde. Et Luc, quel...
Moi, c'est différent parce que moi, je ne veux pas dire que j'ai un monde puisque je fais une pièce. C'est donc, à ce moment-là, ça devient mon monde. Et donc, je trouverais presque un peu prétentieux de dire mon monde se confronte au monde, le monde l'univers de cette pièce de Martin Krupp est quelque chose qui m'a été très proche et que dès que j'ai lu, j'avais l'impression de parente, même si la pièce est mystérieuse, et même si elle a beaucoup de non-dits, beaucoup écrits en grande ellipse, je n'avais pas le sentiment de voir des choses qui m'étaient étrangères. Et je la trouvais très d'une énorme subtilité, d'une grande raffinesse, et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un théâtre comme ça. Et donc la question ne se pose pas pour moi quel monde, cette pièce-là, cette relation, et le monde il commence quand on a. Quand on a une idée de la distribution et qu'on met les trois personnes, et ça, c'est pour moi, là, commence, l'histoire commence comme ça, on réfléchit. Et donc, mon grand problème dans la pièce, c'était comment distribuer la jeune fille. Parce que ça, je trouvais un vrai problème. Il ne fallait pas raconter seulement une histoire psychologique purement de triangle et conjugal et une fille qui rentre dans un couple. Je trouvais ça trop faible comme histoire. Ça ne m'aurait pas intéressé. Je crois que la pièce raconte plus que ça. Elle raconte une chose plus étrange et qu'on ne sait plus parfois où est la perspective. Elle est vue de quelle perspective et pendant que nous répétions, chaque fois que je changeais la pièce, me semblait vue d'une autre perspective et chaque fois je comprenais de moins en moins. Ça devenait de plus en plus intéressant, et ce n'était pas l'histoire seulement d'un triangle et d'une personne qui entre, d'une intrusion, c'était une intrusion plus profonde, c'était donc ça qui était intéressant.
Alors, il y a un micro qui circule dans la salle, je ne sais pas où il est, mais très bien, donc...
Bonsoir. J'ai eu le privilège et le bonheur de voir la pièce déjà à Londres, à Royal Court, quand ça a été fait la première fois. Et ce qui m'a frappé quand j'ai vu ce soir en allemand, c'est qu'en anglais, j'avais l'impression que les personnes se cherchaient un peu à travers la langue et essayaient d'établir quand même une sorte de base de communication. Alors qu'ici, j'ai eu l'impression qu'ils se rejetaient par la langue. Et Je ne sais pas si vous voulez peut-être faire des commentaires, peut-être Martin Crimp, qui a dû voir les deux aussi, si c'est votre impression également. Et je me demande un peu si en allemand, on a plus l'intégrité d'être soi-même. Ça se voit par la jeune fille, par exemple, qui est très, très intègre, en quelque sorte, en étant aliénée ou en dehors. Alors que les autres deux semblent un peu plus perdus. Ça, c'est des petites réflexions spontanées.
Et ça me faisait penser à une phrase de Nathalie Sarraute qui avait dit qu'elle ne s'intéressait pas du tout au fait que qui disait quoi. Et qu'elle m'a dit, un jour, je connaissais un peu, elle m'a dit, moi, si c'est complètement égal, si c'est Jean ou Anne qui parlent, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils disent. Et c'est un peu dans la pièce, c'est pas tout à fait comme ça, mais j'ai trouvé intéressant que c'était aussi le problème que les dialogues étaient écrits pas toujours en une pièce. Et je pense que c'est pas même si c'est pas inconscient que Martin Crimp n'a pas essayé d'écrire un théâtre fermé et où on dit et on peut, et il y a, ça c'est un élément et il y a un autre élément c'est qu'il y a après les phrases certaines phrases il y a toujours un trait pas de propre point mais un trait et ces traits veulent dire lui le dit c'est des phrases qui s'enchevêtrent finalement comme dans, vous connaissez comme dans les films de Casavets où les gens et c'est une des choses les plus difficiles au monde, le théâtre. C'est la chose la plus difficile, c'est de jouer ça. Parce que normalement, ça c'est une chose qu'on pense, qu'on fait par hasard, alors que ça c'est la chose qui demande le plus de précision et de calcul pour savoir à quel moment quelqu'un intervient quand un acteur parle, de telle manière qu'on peut entendre les deux choses et que l'affrontement de deux phrases soit précis et pas seulement aléatoire, comme dans, parfois dans le théâtre boulevard, les gens s'interrompent et parlent en même temps, et ça fait plaisir, on a l'impression que c'est naturaliste et réel. Alors que chez Crimp, le texte est très musical, composé, donc en allemand complètement différent qu'en français, certainement en anglais, et la mentalité, naturellement, moi, on n'a pas essayé de faire une pièce anglaise, j'ai fait cette pièce-là, et les gens qui étaient là devant moi, les acteurs devant moi, donc je ne pensais pas, il faut faire, parce que je m'en fous en général, je ne pense pas jamais, ah, il devrait jouer un personnage comme ça. D'abord, je ne pense jamais à des personnages, quand j'ai l'acteur devant moi, je me dis, c'est lui. Comment faire avec ces trois-là, que ce soit comme ça. Donc, ces choses-là, de la langue, de la manière dont les gens parlent, c'est lié très personnellement aux acteurs, c'est lié à cette fille qui... joue le rôle de Susan Rota et le rôle de la fille de August, c'est vraiment leur manière d'essayer de faire quelque chose avec ça. Cette pièce, elle est une énorme, en plus d'une pièce très intéressante et étrange, c'est une énorme étude pour les acteurs. parce qu'elle demande une espèce de travail qui est une énorme écoute. Les acteurs ne peuvent pas se permettre de jouer pour eux. Alors je ne suis pas d'accord avec madame, mais ils jouent complètement ensemble, ces acteurs. Sauf quand ils ne s'écoutent pas, ils jouent très consciemment qu'ils ne s'écoutent pas. Ils s'écoutent, et c'est une chose très, entre nous, absolument calculée, pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ça se passe comme ça.
Je comprends. J'ai personnellement une question sur les slash, hein, les fameux slash du texte de Petit, c'est-à-dire cette superposition. Oui, une question qui s'adresse d'abord à Martin. Pourquoi écrire en slash? Pourquoi cette nécessité presque constante? On trouve à peu près dans toutes les pièces des interruptions, ces fameux slash qui entraînent les superpositions dont parle Louis Bondy.
Okay, for me, theatrical language has to start from everyday spoken language.
Pour moi, le langage théâtral doit partir du langage parlé de tous les jours.
But it has to be an intensification of it.
Mais ça doit être une intensification de ce langage-là.
And this technique you're referring to, which over the overlapping.
Vous voyez, cette technique du chevauchement.
Is something that comes from everyday life, which is observable in everyday life.
Quelque chose qui vient de la vie de tous les jours et qu'on peut observer dans la vie de tous les jours.
But that is then developed into a device to heighten.
C'est donc développé en une sorte de procédé. Ça devient quelque chose comme un procédé de façon à mettre en lumière le fonctionnement.
And it also gives me enormous pleasure.
Une chose qui est très intéressante dans cette pièce de Marie, c'est que, comme il s'agit de quelqu'un d'homme qui en général ment à sa femme, c'est un truc très précis que si quelqu'un dit quelque chose, l'homme dit toujours quoi, parce que pendant qu'il dit quoi, il sait exactement ce qu'elle a dit et il peut réfléchir sur son mensonge. Et je connais ça très bien, des gens qui disent toujours pardon, les politiciens, vous savez déjà, ce que vous avez dit, ils font répéter parce qu'ils ont très bien compris qu'ils veulent, pendant cette fraction de seconde, avoir le temps de pouvoir exactement répondre à une chose que sinon ils seraient pris au dépourvu. Et ça, c'est dans la pièce beaucoup. C'est pour ça que c'est lui qui, souvent, quand c'est elle qui lui pose des questions, il fait quoi? Et alors il rentre dans une espèce de vertige de questions qui fait que la langue. Tout à coup, on a l'impression que la langue a une espèce d'indépendance d'eux-mêmes, devient quelque chose de complètement indépendant d'eux, et que parfois, il y a presque un mécanisme, comme beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens moi-même, que quand ils parlent, ils disent quoi ? Comme s'il y avait quelqu'un d'invisible qui mettait la chose en question. Alors je voulais dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont en eux dédoublés par la question qu'ils s'imaginent que l'autre pourrait poser. Et donc c'est très compliqué, c'est presque un labyrinthe de cette langue, c'est une espèce de confusion tellement qui est liée à aussi à une espèce de choses tout à fait opaques qu'il y a dans les têtes de ces gens et dans la communication entre ces trois personnes, qui font qu'on a l'impression qu'au bout d'un moment, on ne sait plus du tout s'ils se parlent vraiment, ou s'ils se parlent seulement un peu, ou ils se parlent beaucoup, et où est cette communication ? Et ça, c'est très fort dans cette pièce. Sans que ce soit didactique et sans que ce soit obvious, comme on dit en anglais.
Bizarre, un mot qui attire l'attention à l'étranger. Je n'ai pas compris le mot en anglais.
Solicitors.
Solicitors. Oui.
J'ai deux questions qui sont également liées à la langue, on sent. Pourquoi avoir conservé le titre allemand Auf dem Land? C'est une pièce que je connaissais, que j'avais lue, mais je n'avais pas fait le rapprochement avec The Country, la campagne. C'est ma première question. La deuxième question, c'est que manifestement, le personnage de Rebecca est américaine. Plutôt, enfin, c'est quelque chose qui est un peu revendiqué par Luc Bondy dans le cahier. Vous n'avez pas l'impression qu'en présentant la pièce en allemand, on perd quelque chose de la diversité des accents qu'il peut y avoir, qui peut être importante?
C'est-à-dire
dans quelle langue alors? Il y a deux personnages qui ont un accent anglais et un qui a un accent américain. Donc.
Mais ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parler bavarois ou tout simplement. Je crois que l'Angleterre. Si vous êtes, vous devriez poser la question plus clairement. Parce que je ne pense pas que. L'allemand, il faudrait alors que ce soit les deux autres qui parlent une autre langue et que. Et je ne vois pas comment on traduirait ça. La situation anglais-américaine n'existe pas. Il n'y a pas une correspondance qui est juste. Il y a certainement une manière de faire ça, mais ça ne correspondra jamais, à mon avis.
Au titre, c'est la représentation allemand, alors Abdelland, c'est j'aime bien. La question du langage, de la langue, je crois qu'il ne faut pas insister trop sur la différence entre l'américain et l'anglais, c'est très 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 subtil. Et pour moi, c'est plutôt un point de départ, un point de départ pour que je arrive à connaître le personnage de Rebecca. Mais quand on a démarré, ça n'a plus d'importance, tant d'importance pour moi.
C'est surtout l'association qu'elle voyage beaucoup, qu'elle vient d'ailleurs, par rapport aux deux. Qu'elle vient d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle a fait de longs chemins de l'université, qu'elle vient de, je ne sais pas, Stanford, ou je ne sais pas, Columbia, c'est une chose beaucoup plus topographique.
Oui, ça doit pas être trop dans la langue. Et qu'elle habite dans la grande ville, et elle n'aime pas Colum, qui ont décidé de se réfugier.
Une question plus précise. Est-ce que tous les deux, Luc Bondy et Martin Grimm, est-ce que vous vous réunissez un peu dans Samuel Beckett?
Plus qu'il faut se séparer de cette admiration et de cette manière d'écrire. Alors on réagit contre.
Pour moi, j'ai une grande aversion quand quelqu'un dit qu'il a fait une mise en scène beckettienne. Parce que je me dis, à part Beckett, c'est très difficile de dire, par exemple, ah, ça, Tchekhov très beckettien, ou Krim très beckettien. C'est comme si on dit, c'est shakespearien, les gens disent, kafkaesque. Pour moi trop général. Et j'aime beaucoup moi aussi Beckett. Et je trouve que la différence, c'est que sur la solitude, c'est que chez Beckett, les gens sont vraiment totalement seuls. Alors qu'ici, ils sont seulement moitié seuls. Et ça, c'est vraiment une grande différence. Il y a une moitié qui communique avec le monde ou qui essaie de communiquer. Chez Beckett, c'est un univers tout à fait différent. Le personnage beckettien n'a pas besoin de l'autre. Il a besoin trop ou pas du tout. Et il est dans un univers tout à fait différent. Et la pièce idéale de Beckett, et la plus beckettienne, c'est « Où les beaux jours ». Vraiment, il n'y a plus personne. Et finalement, elle s'enfonce dans ça. Et c'est différent quand même. C'est un monde encore très différent. Avec une autre articulation. Et peut-être que la fin, que justement je trouve très intéressante dans cette pièce, la fin, parce que c'est une fin qui ne se termine pas par une situation comme au théâtre, on se dirait il y a un crime story, quelqu'un fait quelque chose, ça c'est vraiment la chose originale, c'est que la pièce aboutit, ça c'est peut-être une femme parentée, c'est qu'elle ne spécule pas la forme de dramaturgie ou la manière d'écrire, ne spécule pas sur une technique de suspense, et ça fait semblant au début, ça commence un peu, et puis après ça devient une histoire dans une histoire. Et là, c'est étrange. Et c'est pour ça que cette pièce est intéressante. Elle n'est pas concevable pour moi.
J'ai deux questions, parce que je ne pense pas avoir très bien compris. D'abord, le personnage de Maurice. Le personnage de Maurice sert à quoi exactement? Parce que, bon, on peut l'entendre une fois, mais le nombre de fois où on entend parler de Maurice me semble un peu bizarre. Et je voudrais savoir aussi, j'ai bien aimé l'interprétation de la femme qui revient à la fin en blonde. Ça ressemble un peu à Hitchcock. Est-ce que je me trompe?
Il y a quelqu'un dans la pièce qui dit « Personne, nobody is here for somebody », comme on dit quelqu'un, mais personne ne représente quelque chose. Je ne crois pas que Maurice représente quelque chose. Maurice et Maurice, c'est la quatrième personne de la pièce.
Oui, c'est ça. Pour moi, il faut dire que Maurice, je ne l'aime pas. Je crois que je n'aimais pas le rencontrer. Il me fait peur. Si ça s'en va, là.
Maurice, c'est comme un intrus qui vient toujours se mêler des affaires privées, qui s'intéresse, qui dénonce, qui fait du chantage. Parce que finalement, le téléphone de Maurice, au début, c'est lui qui sait quand même que le type a raté là où il devait aller voir comme médecin. Donc Maurice est le type qui le fait chanter d'une certaine manière. Et ça, c'est très intéressant que le personnage le plus dangereux et qui pourrait le sortir le plus dans une histoire d'un polar, c'est un personnage absent de la pièce. Et c'est beaucoup plus oppressant, justement, qu'il ne soit pas là, ce personnage qui fait que tout le monde a très peur et qui n'est jamais là, mais dont on parle. Alors il apparaît dans la pièce, pour moi, sous différentes formes. Il apparaît justement comme type qui fait du chantage, mais il apparaît aussi à un certain moment pas Rebecca, mais j'ai toujours envie de dire le propre des acteurs, pour Corinne. Elle dit tout à coup, j'ai passé aussi un très bon après-midi, et c'est comme si elle le véhiculait comme un amant possible, et une histoire possible. Donc c'est toujours, les fonctions de Maurice changent de la pièce selon la situation. Et en même temps, il devient comme ça, comme le voisin. Moi, je le voyais toujours comme ça, une espèce de vieux hippie, dangereux, et pas satisfait, et qui reste l'éternel voisin.
Est-ce que vous écrivez des romans également, des romans et de la poésie? Parce que le texte est très dense, et c'est assez inhabituel au théâtre aujourd'hui d'avoir un texte si dense, des répliques si denses, je veux dire, pour les acteurs.
Moi, je ne sais pas, les romans, j'ai écrit un roman quand j'avais 22 ans, que personne n'a édité. Bien sûr, c'était la bonne décision, je crois. Mais c'est quelque chose que je voudrais faire. Je voudrais faire parce que quelquefois je sens qu'on ne peut pas continuer à faire des pièces de théâtre toujours parce que ça devient de plus en plus difficile de mettre
Mais pourquoi vous écrivez du théâtre plus que des romans, justement?
Je crois parce que j'aime bien. I like the challenge of the whole narrative being expressed in dialogue.
J'aime le défi d'exprimer toute l'histoire sous forme de dialogue.
Because the dialogue for me, the image I use of dialogue is that it's like a tightrope, it's like a steel wire that has to carry all the information.
L'image que je conçois pour parler du dialogue, c'est l'image de la corde raide. Hein, la corde raide qui doit véhiculer...
It has to contain all the information of the play and it has to remain stretched.
La corde raide qui doit rester tendue et véhiculer toute l'information du texte.
So I don't know why that appeals to me.
Donc je ne sais pas pourquoi ça m'attire particulièrement.
But also I like to see real human beings in space.
J'aime voir de vraies personnes, des personnes réelles, de vrais êtres humains dans l'espace.
I think there's nothing wrong.
Il n'y a rien de tel.
Oui, bonjour. Je suis ici, regarde sur la... J'attends. Bonsoir. Bonsoir, je voulais juste... j'ai beaucoup apprécié le travail, j'ai beaucoup aimé le jeu du comédien. C'était d'ailleurs assez frustrant parce que le fait d'avoir, je ne parle pas du tout l'allemand, donc j'étais obligé de regarder en l'air. Et c'est très frustrant parce qu'on se dit, mince, on est en train de rater quelque chose de vraiment fin. Et voilà, c'est une petite frustration. Mais bon, ça c'est, voilà, c'est juste, j'ai vraiment beaucoup aimé le travail des comédiens. J'ai beaucoup aimé aussi le décor, la mise en scène, tout ce travail. Et je suis un peu fasciné toujours par le couple entre l'auteur vivant et le metteur en scène. Après, je voulais juste savoir comment ça s'était passé. Est-ce que vous aviez vraiment une collaboration? Est-ce que c'est un produit fini du metteur en scène et après il y a l'auteur qui arrive derrière en constatant les dégâts ou les
Le processus était dans ce sens chimique, il n'est pas là, il n'était pas là, mais j'ai parlé beaucoup avec Martin, mais pas parce que ça, c'est ma manière, je n'essaye pas de poser trop de questions à l'auteur, parce que je me dis que sinon, après, pour moi, c'est pas marrant de découvrir un truc, et je sais que les auteurs, souvent les bons auteurs, ne sont pas des auteurs qui aiment trop expliquer ce qu'ils font, parce que c'est très embêtant pour eux, parce qu'ils l'ont fait aussi. Le travail d'un auteur, un bon travail d'auteur, c'est toujours entre le conscient et l'inconscient que ça se passe. Et je trouve ça d'une intimité extrêmement dérangeante. Moi, c'est presque trop intime de demander pourquoi tu as écrit ça, là, si c'est certaines choses. Et j'avais pour moi des questions, et quand je sentais qu'il ne pouvait pas répondre, je me suis dit, c'est à nous de jouer. Ça, c'était. Mais comme pendant qu'on fait une pièce, ça a été déjà joué à Bochum avant, ça, je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais pour moi, c'était pendant que je faisais cette pièce, j'avais un désir, c'était que notre travail plaise à l'auteur. Pour moi, il est très, très important d'aller dans le sens d'un auteur, avec toutes les libertés qu'on prend, c'est de rejoindre ce qui... C'est ça la chimie qu'on veut. Après, Martin est venu une fois au milieu des répétitions, et il est resté assis à Zurich, donc dans le théâtre de Martha, il est resté là pendant... plusieurs jours à regarder et à parler et parce qu'il était là et que sa présence était très généreuse, donc ça m'animait moi à encore travailler mieux avec les acteurs. Je peux m'imaginer que si un auteur rentrait et qu'on sentait qu'il fait la gueule, on n'a plus du tout envie de faire rien du tout. C'est très frustrant puisque l'œil de l'auteur, et d'une certaine manière, ça peut être aussi une espèce d'objectivité, et c'est quand même lui qui l'a écrit. Mais il y a il y a très peu d'auteurs, Martin fait partie de très peu d'auteurs, je connais encore un auteur comme Otto Strauss, qui sont des auteurs très ouverts vis-à-vis du théâtre, de ce qui se passe au théâtre, et qui, à mon avis, connaissent le théâtre, on le sent d'ailleurs, pas seulement dans la manière d'être au théâtre, mais aussi dans la manière des écrivains, qui savent ce que c'est des acteurs. Donc ils peuvent comprendre le développement de la mise en scène. Il y a des auteurs qui ne supportent absolument pas de voir ce qu'ils ont fait, et la première réaction agressive qu'ils ont envers ce qu'ils ont fait, c'est envers ce qu'ils voient. Ça existe aussi. Et surtout les compositeurs sont comme ça, ils testent pour entendre ce qu'ils voient. Enfin, et Martine était justement pour moi, et ça m'a beaucoup aidé quand j'avais été là, après de continuer, parce que je sentais qu'il me donnait, qu'il avait l'impression que c'est dans son sens, que c'est dans son tracé, dans sa manière de voir les choses. Donc ça ouvrait encore l'imagination pour travailler sans que ça devienne éducatif.
Luke just said about l'inconscient is very important.
Ce que Luke vient de dire à propos de l'inconscient est très important.
Because I find it very strange when writers are able to commenter what they may explain.
Je trouve ça très étrange quand des auteurs sont capables de commenter, d'expliquer
what they've been writing.
Ce qu'ils ont écrit.
Because writing is it's an instinctive or an unconscious journey.
Parce que écrire pour moi c'est un voyage inconscient ou instinctif.
Craft skill plays a part of that, but part of it is also letting things happen.
Bien sûr, une partie de la façon de créer, c'est de laisser les choses se produire.
And as for working with directors, I think that everybody has a different approach to writers.
Pour ce qui est de travailler avec des metteurs en scène, chacun a une approche différente.
Some people do like to ask a lot of questions.
Donc, il y a des gens qui aiment beaucoup poser beaucoup de questions.
But I think the important thing is how they use that information.
Mais ce qui est important, c'est la façon dont ils font usage de l'information qu'il leur a donnée.
I quite like it when people don't ask me lots of questions.
Et j'aime beaucoup quand on ne me pose pas beaucoup de questions.
I think it gives me more confidence.
Et ça me donne beaucoup de confiance en moi, assurance.
Et comment se fait-il que vos pièces n'aient pas été jouées en France avant ce jour, finalement ? Parce que là, je sais qu'il y en a une autre à Paris actuellement, à Chaillot, il y a le traitement, mais auparavant, il n'y en a jamais eu. Donc.
Parce que je peux dire aussi un peu pourquoi, parce que la tendance de vos pièces, depuis les années 80-90, les Français sont très branchés sur tout ce qui vient. Ils ont découvert, comme ils découvrent toujours, ils sont très philo-germains, germaniques, les Français, plus que dans le temps. Dans le temps, il y avait une pièce anglaise. Après, c'est beaucoup Heinrich Müller, c'est beaucoup les choses. Ça a été très. Il y a une certaine réaction sur le théâtre. Et peut-être que là, certains sont passés à côté de choses qui se passent. Parce qu'il y avait un moment, on jouait beaucoup plus de pièces anglaises à Paris, c'était dans les années 70. On jouait plus de pièces anglaises qu'aujourd'hui. Il y avait l'époque aussi, parce que le théâtre anglais avait une effervescence énorme dans les années, quand il y a eu Edward Bond, et il y a eu Pepinter, et il y a eu toute une série. Et puis, et il y a toujours de nouveau, puis il y avait beaucoup moins, puis là maintenant il y avait Sarah Kane et Martin Crimp, comme ça. Il y a toujours de nouvelles effervescences d'auteurs qui arrivent comme ça. Et très souvent, d'ailleurs, en France, les auteurs traversent d'abord l'Allemagne, même les auteurs anglais. C'est souvent le théâtre allemand qui donne le truc, le push, pour qu'en France, les choses soient jouées. Et quand Sarah Kane était à la mode en Allemagne, elle n'est déjà plus à la mode alors qu'elle est venue à la mode en France. C'est comme ça. Je dois dire que l'Allemagne est plus sur les choses liées au système. L'éditeur, c'est un éditeur en effet qui fait beaucoup pour les auteurs, c'est le seul d'ailleurs qui fait énormément, qui se bat beaucoup. Mais je ne parle pas maintenant seulement d'éditeur, parce que pour un éditeur, il faut aussi les gens de théâtre qui s'intéressent, qui disent cet auteur-là en veut, et qui voyagent aussi, qui voient une chose, et qui ne vont pas seulement dans les pièces à succès au Broadway pour aller acheter pour le privé, mais pour aussi découvrir une chose.
Je disais simplement que les pièces de Martin Crimp avaient été jouées en français. Donc, en définitive, ça fait un moment qui circulait sous le manteau, si je peux dire ça, pour une citation du moment. Or, ans ou trois ans, déjà le texte de Martin Krieg, déjà traduit et qui vient de Belgique, passait un peu sous le manteau. Donc voilà.
Moi, à côté de cette pièce, j'ai essayé de monter, Country en France. J'ai essayé de monter cette pièce en France au début, avant de la monter en allemand. J'avais essayé de la monter en France. Et puis j'avais pensé bêtement, il y avait quelqu'un qui s'intéressait. Et puis j'ai essayé, c'était pas finançable à ce moment-là. Puis j'ai proposé à quelqu'un, naïvement d'ailleurs, un théâtre privé. Et personne, le théâtre privé m'a dit, mais comment, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là?
Pourquoi? Parce qu'en allemand
pourquoi?
Parce qu'il ne faut pas comprendre. Ils s'attendaient peut-être que ça devienne une énorme suspense à la fin. C'était pas assez commercial dans ce sens-là. Parce qu'en France, la séparation entre commercial et non commercial est beaucoup plus grande qu'ailleurs. Et c'était pas visiblement pas assez un truc commercial. Donc il y a que des théâtres comme ce genre de théâtre, comme La Colline et ce genre de théâtre qui font des auteurs nouveaux. Je crois que La Colline s'est intéressée, après j'ai entendu, à faire cette pièce. Donc il y a peu de théâtres, tous les moyens, je ne sais pas, maintenant, il y a Chaillot.
Il va être joué à Créteil en français.
Oui.
Dans
quelques...
Et ben, je sais, 10 fois.
Dans le petit cahier, il est écrit quand je mets en scène la pièce d'un auteur contemporain, et il n'y a pas beaucoup de pièces contemporaines que je trouve bonnes, c'est ici là. Donc, qu'est-ce que vous reprochez, vous le dites, aux pièces contemporaines? Quelle est votre position par rapport aux pièces contemporaines et vous aussi, Martin Krieg?
Vous,
pièces
contemporaines.
Je vais faire
pièces contemporaines.
Je fais beaucoup de pièces contemporaines.
Oui, il y a marqué là qu'il y a peu de pièces contemporaines que vous trouvez bonnes.
C'est normal, parce qu'il y a beaucoup plus de pièces contemporaines qui ne sont pas bonnes que celles qui sont bonnes. C'est partout pareil. Il y a beaucoup plus de romans qui ne sont pas bons que de romans. C'est partout comme ça. Il y a très peu de choses vraiment bien. Et je trouve que peut-être j'aurais dû dire qu'ils me plaisent au lieu de dire objectivement qu'ils sont bonnes. Parce qu'il y a d'autres gens qui préfèrent. Moi, par exemple, vous pouvez mettre Heiner Müller et m'attacher avec ces pièces sur une île et me dire que je meurs si je ne fais pas, je crois que je vais mourir plutôt. C'est comme ça, et c'est une question de goût. Il y a des gens qui trouvent extraordinaire, moi je connaissais bien d'ailleurs, et j'arriverai jamais, c'est un genre de théâtre, et c'est très difficile de trouver un théâtre pour moi où j'aime, parce que je pense que la forme pour écrire du théâtre, ça doit être ni du cinéma, ni du roman, ni de la nouvelle, mais quelque chose de complètement différent, et que la forme d'écrire du théâtre, c'est la chose la plus difficile, parce que c'est plusieurs éléments. C'est cet élément d'écrire, de mélanger une situation avec une langue qu'on écoute, qui accroche, et qui n'est pas la langue comme ça qu'on voit dans une série de télé, et qui n'est pas seulement le colportage, et en même temps, c'est très difficile d'écrire du théâtre aujourd'hui. C'est très difficile, d'une part, à cause de la... parce qu'au cinéma, les gens font beaucoup plus d'expériences intéressantes avec leur médium. Ils essayent toujours des choses, Lynch, comme ça. Ils essayent toujours une nouvelle narration. Et au théâtre, c'est plus rare de trouver des gens qui essayent d'autres techniques de raconter. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire après Beckett, si vous voulez, d'une certaine manière où... C'est très difficile, le théâtre, et d'écrire le théâtre... sans dire j'écris seulement un texte qu'on joue, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la tendance, on peut voir très souvent des gens dire on fait un projet. Très rarement, on entend des gens qui disent je fais une pièce de théâtre. Moi, je peux le dire, en tant que directeur du Festival de Vienne, tous les gens viennent et me disent j'ai ce projet. Alors je dis oui, qu'est-ce que c'est? Alors ils me disent c'est l'adaptation de, je sais pas moi, il y a peu de gens qui disent j'ai découvert cette pièce très intéressante, de moins en moins. Et visiblement aussi, c'est très difficile de trouver, pour les auteurs, d'avoir confiance et d'inventer quelque chose qui soit seulement pour le théâtre intéressant et qui part ailleurs. Et ça révèle de la relève, comme la musique, c'est comme la composition, c'est aussi compliqué que la composition. C'est-à-dire c'est une chose qui ne peut qu'exister dans cet espace théâtre. Et ça, c'est rare. Il y avait Coltès qui pouvait faire ça. Il y a très peu d'auteurs. Dans les dernières 15-20 années, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'auteurs. Il y a beaucoup de films.
Il y a
pas. C'est mon, ma faute.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du décor?
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du décor? C'est la question.
Il y a des choses un peu énigmatiques. Non, mais parce que...
Oui, comme on dit, c'est un... Vous savez comment dans les caves, à la campagne, au dépôt, on met les pommes de terre et les... Vous voyez, on le voit.
Ah, bah, oui, mais moi j'avais pas vu les pommes de terre.
Quoi?
J'avais pas vu les pommes. Non.
Ouais, mais il faut pas montrer.
Non, non, bien sûr. Mais
là. Vous avez cru avant.
Non, non, mais bien sûr. La lampe, par exemple, cet objet au fond, là.
Cet objet au fond, c'est un bain et voilà ça. Je ne sais pas, je ne voudrais pas.
Non, non, là, là, c'est pour le fond là-dessus. Au-dessus, au-dessus, à gauche.
Ça, c'est
au-dessus.
Un peu trail, c'est un endroit où voilà. Pour le blé.
Silo. Ah, à silo, oui, pour le blé.
À silo.
Oui, et alors?
Des escaliers. Des escaliers qui montent en haut. Ça, on ne peut pas expliquer un décor, on le voit, ça donne une atmosphère, on associe plusieurs choses, je crois, avec ce décor. Voilà. Je ne sais pas plus que ce que vous voyez.
Oui, moi je le trouvais en décalage avec le texte.
Ah bon?
Ben oui, mais tant mieux.
Enfin. Non, peut-être que ce n'était pas réaliste.
Ah ben non, non, mais je sais.
Un loft, tout ça, à la campagne.
Oui, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du travail sur les corps qui a été fait, parce qu'il y a un mélange avec une danse en fait. Il y a des parties que je considère un peu comme danser, et je voulais savoir dans quel sens vous alliez travailler par rapport à ça.
C'est très ma manière de travailler avec les acteurs, sur le physique. Je ressens des choses au théâtre comme des choses physiques, toujours en rapport les uns aux autres, et le corps, au moins, autant de. Comme la langue, c'est la même chose. Donc, c'est toujours la chose qui pour moi, rend les choses au théâtre physiques, sensuelles et visuelles et auditives. Ça passe par le problème de ce que le corps et comment sont les corps ensemble, les contrôles, tout ça, c'est normal. Voilà.
Une dernière question, peut-être?
Petite question à l'auteur. Pourquoi le latin? Et pourquoi les deux personnes qui connaissent le latin, c'est Maurice et Rebecca? Est-ce que ça a un sens?
Ouais, moi, je ne sais pas si ça a un sens. J'ai parlé de l'inconscient. Le latin, c'est plutôt évident parce que j'ai voulu faire cette référence à la mode astrale. Et c'est pour ça. Qu'on parle de Vergil. Pourquoi Maurice pas le latin? C'est pas Maurice quand j'ai dit il est bizarre. La question du décor, moi je le trouve très très en harmonie avec la pièce, parce que comme j'ai dit, je vois que mon travail c'est de suggérer tout ce qui passe dans avec les dialogues, et moi je trouve que cet espace, les escaliers qui descendent et celui-ci qui ascend, suggèrent des espaces au-delà de la pièce, et pour moi c'est très important, et je trouve ça tout à fait en harmonie avec mes intentions comme auteur.
C'était donc...
donc une question pour Michel Brent. J'étais assez fasciné par ce texte que je découvre là aujourd'hui pour la première fois, et l'auteur aussi. Et je ne sais pas trop bien comment expliquer ça. J'arrivais pas très bien à comprendre si c'est en fait une question sur sa manière de his way of writing. C'est-à-dire, est-ce que c'est est-ce que vous avez un projet dont la thématique et le déroulement est déjà préétabli et vous construisez autour, c'est-à-dire plutôt une structuration très pensée, ou est-ce que c'est, comme vous avez dit, une partie de l'écriture dédiée à l'inconscient, est-ce que c'est plutôt une manière de d'écrire instinctivement et on découvre la structure après qui est dedans?
Bon, je dirais qu'on on trouve la forme instinctivement. C'est comme ça. On sait qu'enfin, il doit être une forme qui me plaît. Et c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche chaque fois quand je commence à écrire une pièce de théâtre. Et j'espère que la forme plaît également aux autres.